France Inter. Bonjour, ravi d'être avec vous ce dimanche dans Questions politiques, l'émission de politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. Jamais de mémoire, une ouverture du salon de l'agriculture n'avait été si chahutée. Des sifflets ininterrompus des agriculteurs qui chargent les forces de l'ordre devant le regard médusé des chèvres et des vaches, tandis que les familles restent à la porte. Président obligé, lui, de changer ses plans après l'annulation d'un débat XXL, un échange improvisé en bras de chemise avec quelques représentants syndicaux et une déambulation vaille que vaille sous les huées. De cette séquence, on retient l'attaque virulente contre le RN. Un projet de décroissance et de bêtise, dénonce Emmanuel Macron. Ce matin, Jordan Bardella a arpenté à son tour les allées du salon. Le RN qui, depuis le début de la crise, se revendique porte-voix des campagnes. Mais avec quelles mesures concrètes, quelle vision européenne, quel avenir pour la PAC? Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement National, est notre invité ce dimanche dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Élodie Forêt sur France Inter.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interroger, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Françoise Fressos du journal Le Monde.
Bonjour. Bonjour.
On va revenir évidemment longuement sur la crise agricole, mais d'abord on commence avec les images de la semaine, ce qui nous a marqué. Sébastien Chenu, à vous, c'est une photo de votre circonscription.
Oui, c'est une photo de l'entreprise Valdune dans ma circonscription à Trie-Saint-Léger. Valdune, c'est le dernier fabricant de roues de train. Son actionnaire principal chinois a choisi de se faire la malle en portant avec lui les brevets, la technologie, le savoir-faire des ouvriers de Valdune. Et les ouvriers, les employés, ils sont sur deux sites, les Frincouques près de Dunkerque et, je l'ai dit, Trie-Saint-Léger près de Valenciennes dans ma circonscription, se retrouvent évidemment dans la difficulté. J'ai voulu poser cette photo d'abord parce que nous sommes dans cette actualité brûlante où il a fallu trouver un repreneur. Moi, je me suis beaucoup investi, pas le seul, je pense que tous les services de l'État,
le gouvernement aussi.
Oui, non, mais se sont investis, mais ça pose une question. À qui elle sert cette mondialisation? À qui elle sert si à la fin, notre industrie n'est pas protégée? Notre industrie est laissée entre les mains d'investisseurs qui, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, repartent et laissent à l'abandon les ouvriers de Valdune. Ça pose la question de cette mondialisation. Ça pose la question de la protection de notre industrie à un moment où beaucoup d'entreprises stratégiques ont été d'ailleurs achetées par des puissances étrangères dans notre pays, où on a laissé, le gouvernement a laissé des entreprises stratégiques, je crois qu'il y en a à peu près 130 dans des secteurs stratégiques qui ont été achetés par des puissances étrangères. À un moment où il y a une faillite d'entreprises record dans notre pays, oui, à qui sert cette mondialisation?
Je me tourne vers Nathalie Saint-Cricq, votre image de la semaine, Nathalie.
Alors moi, je vais revenir sur l'hommage à Misak Manouchian. D'abord parce que j'ai trouvé que la cérémonie était assez belle. Ensuite, parce que je trouvais que c'était une forme de réparation. C'est rare que j'emploie exactement les mêmes mots que Fabien Roussel, mais il a considéré effectivement que c'est une réparation. Au Mont-Valérien, il n'y a pas de communistes. Enfin, il y en a dans la clairière, où il y en a eu dans la clairière des fusillés, mais pas dans le bâtiment. Au Panthéon, il n'y en avait pas. Et puis, c'était des juifs apatrides et tout ça. Et c'était aussi, d'une certaine manière, dans le discours du chef de l'État, non pas un hymne à l'assimilation, mais quand même à l'intégration. Il n'y avait pas du tout d'aveuglement ou d'ingénuité sur ce qui s'est passé. On a reparlé du pacte germano-soviétique, donc on sait très bien que les communistes se sont engagés après. Et puis il y avait aussi cette volonté d'assimilation, et c'est-à-dire que tous les parallèles avec aujourd'hui peuvent sembler un petit peu fantaisistes parfois. C'était simplement des gens qui adoraient, qui admiraient la France à cette époque, dans la France qui rayonnait, et c'était quelque chose qui pour une fois faisait plaisir, pour une fois, qui était agréable à voir parce qu'il y avait des gens jeunes et qui ont accepté de se battre pour un pays dont il n'avait même pas la nationalité, au nom de la Révolution française, du siècle des Lumières et des valeurs qu'on pouvait porter.
Sébastien Chenu, vous avez assisté, hein, vous, à cette cérémonie aux côtés de Marine Le Pen. Vous étiez à l'aise avec cet hommage à Missak Manouchian, à l'idéal communiste, hein, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
On peut séparer les choses. Oui, j'ai assisté à cet hommage, car évidemment, Manouchian, c'est la résistance. C'est la résistance, c'est pas le communisme uniquement, c'est d'ailleurs pas uniquement non plus l'Arménie, c'est la résistance de gens qui se sont reconnus dans ce que la France portait de plus beau et qui l'ont payé de leur vie.
Un malaise quand même sur votre participation.
Non, il n'y a pas de malaise, madame.
Si, il y a eu un malaise qui a été exprimé sur votre participation, parce qu'au fond, ils ont été traqués quand même par la police vichyste. Alors, le Rassemblement National a quand même des origines d'extrême droite, donc est-ce que vous les gommez complètement? En fait, par rapport à votre héritage, où vous situez-vous aujourd'hui?
Et je précise que le malaise a été exprimé par le comité de soutien.
Monsieur Sakoun a dit qu'il respectait non seulement les institutions, que le RN était à ce titre invité et qu'il en respectait la présence.
C'est par rapport à votre devoir de mémoire, par rapport à votre propre mouvement.
Pour le reste, si vous voulez qu'on parle de la mémoire, alors il faut tout dire, madame. Il faut tout dire. Alors, il faut regarder aussi les autres. Alors, il faut, Madame Saint-Cric l'a rappelé, les communistes ne sont entrés...
Bien sûr.
Mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos, parce que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on nous demande de se justifier, mais donc, je vais dire ce que j'ai à dire. Les communistes se sont engagés à partir de 41. D'ailleurs, les héros communistes ne sont que des héros post-41, c'est-à-dire après 42, en réalité. Je note aussi que plus récemment, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, à l'Assemblée nationale, les élus communistes se sont abstenus sur une résolution concernant l'Arménie. Donc vous voyez, on peut faire le tri, mais moi je n'ai pas de leçon à recevoir. Voilà, je vous le dis simplement, vous nous dites il y a un héritage. En 72, quand le Rassemblement National, enfin le Front National est créé, il rassemble des gens qui ont fait des choix différents pendant la guerre. Pourquoi est-ce que ces gens se sont mis ensemble en 72? Parce que la menace c'était l'Union soviétique, madame. Parce que c'était l'URSS communiste, c'était ça. Et que les gens qui n'étaient pas gaullistes à droite, certains avaient fait les mauvais choix pendant la guerre, comme beaucoup de Français. D'autres avaient fait les bons choix, comme Georges Bidault, comme beaucoup de Français. Et beaucoup de Français avaient été attentistes. Et il y avait beaucoup de Français qui, attentistes, s'étaient retrouvés dans le Front National. La menace en 72, c'était l'URSS. Donc vous retrouviez effectivement des gens qui n'avaient pas été résistants, des gens qui l'avaient été, et à parité. Donc aujourd'hui, expliquer que nous n'avons pas soldé un héritage, que Marine Le Pen à solder de la façon la plus
tranchée
qui soit.
Comment vous vous situez
une dernière question, peut-être Nathalie Saint-Cric.
L'héritage, il a été tranché. Nous sommes un parti totalement républicain. Les Français l'ont tranché. D'ailleurs, finalement, ce sont les Français qui tranchent. Il y a personne qui doit donner des brevets, personne ne doit trier les bons et les mauvais élus, dire qu'un tel et un tel n'est pas légitime, ce qu'a tenté de faire le président de la République. Les Français, ils ont tranché. Et je vais plus loin. Personne n'a instrumentalisé la Shoah, les épisodes les plus tragiques de notre histoire. Oradour-sur-Glane pendant une campagne électorale, personne n'a à faire ça dans le monde politique.
Alors attendez, juste deux petits points. Quand vous dites les gens qui ont fait les mauvais choix, vous comprenez quand même que ça va peut-être un petit peu plus loin que faire le mauvais choix.
C'est un mauvais choix
de la collaboration ou d'être dans la milice.
Mais c'est un choix tragique, c'est un choix scandaleux, j'ai pas de mots assez forts pour le dire, évidemment. Mais c'est un mauvais choix au sens premier du terme, c'est le plus mauvais des choix. Mais tout le monde n'a pas été, vous savez, pour reprendre, je crois que c'est Aragon qui dit « Je ne veux être ni un exemple ni une excuse ». Donc personne n'a à être à donner des leçons d'exemplarité ni d'excuses aux uns ou aux autres, et surtout pas le Parti communiste aujourd'hui.
Puisque vous êtes régulièrement énervé ou exaspéré par cette façon de vous renvoyer au passé, ne serait-il pas souhaitable aujourd'hui de faire ce qu'on appelait un devoir d'inventaire? Au moment où l'histoire de la Francisque de François Mitterrand est apparue, à un certain nombre de moments dans l'histoire des partis politiques, les gens ont dit ça c'est pas possible, c'est plus nous, c'est pas nous. Moi, quand j'ai commencé à travailler, meeting de Nice, ça devait être en 90, il y a un Waffen SS, Franz Schönhuber, qui était sur la tribune.
Madame, ce que vous exigez de nous, vous l'exigez peu des autres. C'est-à-dire que vous nous demandez un droit d'inventaire. Mais moi, je suis tout à fait d'accord.
Je viens
de l'UMP, les Républicains. J'ai aucun problème avec ça. Mais Marine Le Pen l'a fait. La réalité, c'est que Marine Le Pen, en rompant avec Jean-Marie Le Pen, pour ces raisons-là, pour des propos qui étaient liés à ses commentaires sur la Seconde Guerre mondiale, en rompant, a dit « Je ne veux pas supporter, accepter ce discours-là. Elle a fait la rupture la plus forte qui soit, je crois, dans un mouvement politique, avec non seulement son fondateur, qui était aussi accessoirement son père. Et donc aujourd'hui, essayer de nous faire porter un chapeau qui est un peu large et de nous ramener à l'histoire de l'extrême droite de notre pays, c'est évidemment aller largement au-delà de ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement National, sa partie républicain, souverainiste. Je crois que personne ne peut nous faire le procès d'avoir des propos qui ne soient pas parfaitement républicains, et ceux qui le font pour de mauvaises raisons, qui sont celles d'instrumentaliser l'histoire de notre pays à des fins politiciennes, comme l'a fait le président de la République, d'ailleurs, entre les deux tours, car moi, voir le président de la République déambuler à Oradour-sur-Glane, plein de sous-entendus, je trouve que ce sont des méthodes largement contestables dans une démocratie.
On va passer à ce qui vous a marqué, Françoise Fressos, cette semaine.
Alors, c'est évidemment le salon de l'agriculture hier et cette image d'Emmanuel Macron. On est à 9h du matin et il rentre dans une colère par rapport à l'invitation lancée au soulèvement de la terre, au fond qui a
été un peu contacté malgré
tout. En fait, l'Élysée lance cette invitation, lui dit « je ne l'ai jamais lancée », on ne saura jamais, mais on sait que cette invitation fait capoter l'initiative de l'Élysée qui était d'essayer d'organiser un grand débat national au Salon de l'agriculture. Et à partir de cette colère, en fait, on se demande comment va se passer la journée et est-ce qu'il va arriver faire le Salon de l'agriculture comme il l'avait fait les autres années. Et alors finalement, la journée s'est il y a sans arrêt des va-et-vient, des mouvements avec la foule, des manifestations. Il arrive quand même à faire son débat, il arrive à déambuler, il arrive à rester 13 heures exactement comme l'année dernière, mais il n'arrive pas en revanche à désamorcer ce que renvoie l'image, c'est qu'il a été non pas un facteur d'apaisement, mais un facteur au fond de colère, de tension dans cette crise. Et je pense que c'est inquiétant pour lui, vis-à-vis évidemment de ses adversaires, parce que c'est cette journée de tension qui reste, mais aussi au sein de son propre camp, c'est-à-dire qu'il y a une autorité présidentielle qui est un peu mise à mal parce que les dernières initiatives ne contribuent pas à l'apaisement. Alors, il ne faut pas être dupe, hein, on est quand même dans une situation syndicale où tous les syndicats sont en campagne, il y a des européennes, il y a une récupération politique, mais le fait est que le président de la République s'est quand même mis lui-même en difficulté dans cet épisode.
Des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est le parti du Frexit.
C'était donc hier au Salon de l'agriculture, on l'a dit, une ambiance très tendue et le chef de l'État qui le dit de façon assez claire hein, plusieurs fois au cours de sa visite. Ceux qui ont provoqué ce chahut, cette forte tension, sont liés au RN, portent le projet politique du RN. D'abord, qu'est-ce que vous lui répondez, Sébastien Chenu ?
Quel fiasco lorsque Emmanuel Macron va quelque part, qu'il oppose les Français les uns aux autres. Il l'a fait avec Manouchian, il le fait avec les agriculteurs et qu'il n'est pas capable d'unir notre pays.
Mais d'abord sur son accusation peut-être, sur le fait que ce soit des gens qui sont en lien avec vous, qui ont provoqué ce chahut.
Emmanuel Macron n'assume aucune de ses responsabilités. Ça devient même un marqueur de sa politique. Il ne les assume pas lorsqu'il s'agit de dire qu'il n'avait pas invité les soulèvements de la terre à un débat à l'Élysée. Pire, il pourrait même se défausser sur ses conseillers, ce qui, à mon avis, est le pire des comportements lorsqu'on est un chef de l'État. Emmanuel Macron n'assume pas ses responsabilités puisque bientôt, la crise agricole, c'est la faute du Rassemblement National. La guerre en Ukraine, c'est la faute du Rassemblement National. La crise dans l'école, c'est la faute du Rassemblement National. Préparons-nous à ce que d'éventuels problèmes que nous ne souhaitons pas aux Jeux Olympiques soient évidemment de la faute du Rassemblement National. Tout ça montre un président de la République perdu, qui n'assume rien, qui fait de la politique politicienne, qui a utilisé sur le dos des agriculteurs ce salon pour essayer de lancer une campagne européenne. Formale, on l'a vu, ça lui a chance.
Vous avez des liens quand même avec la coordination rurale, avec ceux qui ont beaucoup été parmi ceux qui ont provoqué le chahut hier.
Madame, nous avons des liens avec toutes les organisations syndicales, agricoles, et c'est notre devoir que d'en avoir. Moi, je ne fais pas le reproche au président de la République d'avoir mis sur sa liste la dernière fois le président des jeunes agriculteurs, Monsieur De Serles. Je ne lui dis pas, mais vous avez un lien politique avec des représentants syndicaux.
On a des liens. Rurale, on sait, mais ils ont le droit en plus.
Écoutez,
c'est totalement...
La question est, quelle est
moi, je n'enferme pas. Non, mais parce que derrière, il y a une espèce de procès qui est fait à la coordination rurale pour délégitimer leurs paroles. Ah, vous êtes proche du RN, votre discours est proche du RN, donc quelque part, vous êtes manipulé ou manipulable. La coordination rurale n'est ni manipulée, ni manipulable. Pas plus, pas moins d'ailleurs que les autres.
Oui, mais c'est banal. Hein.
Mais il le revendique. Pas plus, pas moins que les autres. La FNSEA historiquement a eu des liens avec la droite. Il y a même eu des ministres de l'agriculture dans les gouvernements de droite. Le président de la FNSEA, je crois, était, c'est le moins qu'on puisse dire, très proche d'Emmanuel Macron à une certaine époque. Tout ça n'est pas très grave dans une démocratie. On entretient des relations avec les corps intermédiaires, avec les syndicats.
Il y a eu quand même hier des groupes qui ont organisé la violence et qui n'étaient pas la majorité des agriculteurs non plus. Donc il y a quand même eu aussi une mise en scène assez liée à la proximité des élections syndicales et à la proximité des élections européennes. Il y avait quand même aussi une volonté de faire monter la violence et de montrer que le dialogue était impossible, en fait.
En tout cas, il y avait une volonté de faire comprendre à Emmanuel Macron que les politiques qu'il mène, vous le désavouez pas. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que le RN derrière...
Non, pas du tout. Je veux dire qu'il y a quand même une mise en scène de la montée de la violence et de la
colère. Les agriculteurs sont des gens libres et indépendants. Ils ont choisi de dire à leur façon ce qu'ils pensent des mensonges d'Emmanuel Macron, des fake news aussi. Car je rappelle, Emmanuel Macron a développé un certain nombre de fake news durant toute la journée. Je vous donne la première, je les ai notées. L'Europe ne peut pas réduire sa production agricole. Mais les élus d'Emmanuel Macron au Parlement européen ont voté toutes les directives qui réduisent la production agricole, les surfaces d'exploitation agricole, ou lorsqu'Emmanuel Macron dit les revenus ont augmenté. Non mais d'accord, ils ont augmenté de 11% et en moyenne c'est 1800 euros le revenu d'un agriculteur.
Alors, justement, monsieur Chenu,
comment voulez-vous que les agriculteurs ne soient pas, mais ne soient pas hérissés en entendant ça? Résultat, vous avez un président bunkerisé qui termine par des échanges informels très loin
des
agriculteurs.
Même,
oui, d'accord, mais il peut passer du temps, mais sans voir personne. Les halls ont été vidés des agriculteurs et des visiteurs. Il a discuté avec ceux qu'il a rencontrés.
Sur le fond des mesures, il a proposé quand même des choses hier, Emmanuel Macron. Commençons par une mesure qui a été un peu la mesure phare hier, c'est les prix planchers.
Oui, juste avant, je voudrais juste, vous allez voir, c'est un petit peu décalé, mais avoir un mot, puisque avant-hier soir, c'était les Césars, pour Raphaël Quesnard, qui a rendu un très bel hommage aux agriculteurs dans notre pays. Et je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre ça, d'entendre des gens qui, parfois éloignés, rendent un très bel hommage. Sur les annonces du gouvernement, il y a beaucoup à dire. D'abord, il y a aussi ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été tenu, ce qui hérisse les agriculteurs. Et puis, il y a effectivement les débats d'aujourd'hui et probablement de demain. Les prix planchers en font partie.
Alors, les prix planchers, justement, à l'Assemblée nationale, vous vous étiez prononcé pour les prix planchers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une solution qui est viable? Est-ce que vous la soutiendrez si ça va au bout?
Alors, les prix planchers, nous avons soutenu et proposé cela il y a déjà fort longtemps. Fixer des prix planchers, c'est-à-dire ne pas vendre en dessous du prix de revient. À l'époque, le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, n'ont pas eu de mots assez durs pour dire que ceci n'était pas faisable, scandaleux.
Si on rentre dans le fond du sujet, une des contestations sur les prix planchers, c'est de dire qu'au fond, le prix plancher, ça risque aussi de devenir un prix plafond.
Bien sûr.
Et qu'au fond, il y a aussi le rappel de tout ce qui s'est passé au moment où il y avait des prix planchers, et enfin, il y avait des quantités de lait, de beurre invendu absolument. Donc, est-ce que tout ça ne montre pas que les solutions sont extrêmement difficiles? Il n'y a pas de solution simple. Notamment parce qu'on est articulé entre le niveau national et le niveau français,
et qu'il
y a plein de contradictions à résoudre. Et est-ce qu'au fond, le sujet agricole, c'est pas la somme de toutes ces contradictions et que ça mérite
plusieurs choses?
Et au niveau européen, dans la PAC, les eurodéputés RN n'avaient pas voté ce prix plancher, notamment pour le lait.
Les eurodéputés ont voté la PAC sur les prix planchers. Effectivement, il ne faut pas que le prix plancher devienne le prix plafond. Et donc, ça doit se travailler par filière. C'est aussi ce que nous avons proposé. C'est aussi ce qui nous a été refusé. Que de temps perdu. Enfin, est-ce qu'on se rend compte que ce gouvernement, ce président qui est là depuis 7 ans, qui insulte ses opposants matin, midi et soir, qui lorsque nous faisons des propositions, car la démocratie c'est faire des propositions, eh bien nous nous faisons renvoyer dans nos cordes en disant « mais enfin vous êtes des démagos, c'est impossible à mettre en place, c'est scandaleux », qui donc ne prend pas en compte les propositions que nous faisons, pour y revenir ensuite quelques temps après. Que de temps perdu. Bien sûr, c'est pas simple. Qui dit que c'est simple?
Rien n'est simple. Regardez, le contexte européen aussi a été impacté par la guerre en Ukraine, par tout ce qui se passe sur le cours des céréales. Donc, est-ce qu'au fond, il ne faut pas admettre que tout ce sujet est d'une énorme complexité et que L'idée, alors sur le grand débat national, c'était peut-être très malvenu parce qu'il y avait un invité de trop, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment l'idée qu'il faudrait mettre tous les acteurs autour de la filière, enfin de la filière autour d'une table et de montrer vers quoi on veut aller collectivement. Est-ce que c'est pas ça la bonne solution?
Mais d'accord, mais enfin ça fait 7 ans qu'ils sont manettes. Je veux dire, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on peut confier la résolution des problèmes aux gens qui les ont créés?
Mais vous-même, ou pire, vous avez
qui ont
beaucoup
encouragé
bougé, hein,
une
vous
certaine.
Vous avez beaucoup bougé.
Madame,
au
nous ne sommes pas. Nous ne sommes
non,
pas.
Non, mais vous étiez au départ pour
une madame,
pour la défense d'une agriculture très productiviste, et puis maintenant
madame,
vous êtes plutôt dans la défense
madame,
du petit.
Ils se sont laissés entraîner. Pire, ils ont encouragé un modèle de décroissance au Parlement européen. Ils ont voté. Tout ce qui est tourné vers un modèle de décroissance. Alors aujourd'hui, évidemment, ça coince. Mais les prix planchers, c'est pas la seule solution. Le contrôle des marges, c'est quand vous vous rendez compte que les industriels, eux, ont été largement bénéficiaires en milliards d'euros ces dernières années. Alors, nous, on a demandé à ce qu'il y ait pu y avoir non seulement un contrôle des marges, mais probablement une contribution également.
Alors,
l'étiquetage, c'est une autre voie qui n'a pas été explorée par le gouvernement.
Le Régiscor, là, le gouvernement propose mettre en place un origine score de situer dans
madame,
chaque produit alimentaire d'où viennent les différents aliments.
Mais pourquoi est-ce que lorsque nous proposons cela, parce que nous n'inventons pas ça dans nos têtes, nous inventons ça parce que nous dialoguons avec les professionnels du secteur et nous considérons qu'il faut aller vers des chemins sur lesquels nous ne sommes pas allés, essayer, trouver des solutions. Alors, pourquoi est-ce que ce gouvernement balaye ça, si ce n'est pour des raisons totalement idéologiques?
Vous le voterez si l'origine score est mis en place?
Il y a quand même des avancées.
Juste, vous le voterez, l'origine score, si
mais
ça
on
passe
va voir
par
ce qui est présenté. Je vous donne un autre exemple. Les négociations commerciales avec les industriels, avec l'agroalimentaire, ont lieu une fois par an. Est-ce qu'on ne pourrait pas décider que ça puisse avoir lieu, par exemple, vous parliez tout à l'heure de réunir les gens autour d'une table, avoir lieu deux fois par an, ou à des dates différentes?
C'est envisagé,
est-ce
effectivement.
C'est envisagé, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont trouvé des solutions pour tout. La réalité, c'est que les agriculteurs ne seraient pas en colère si ils avaient travaillé sur les pensions de retraite. Ça fait 2 ans que les pensions de retraite des agriculteurs doivent entrer en vigueur. Ça fait
2 ans.
Et il en faut peut-être encore 2, vous me direz, pour que ça arrive. Sur la taxation, sur les droits de succession pour les agriculteurs, où en sommes-nous? Vous allez me dire, c'est fait.
Non,
c'est
on ne va rien vous dire. Vous dire, c'est prévu.
Moi, je vous dis, c'est pas fait.
On vous dit simplement que les choses qui ont été faites pour l'instant...
Le plan d'aide fruits et légumes, le plan éco-phyto sur lequel on a juste mis le doigt pause pour quelques jours, le plan fruits et légumes, qui a je sais pas combien de retard.
Non, le plan pause, attendez, on peut présenter ça aussi comme un plan pause, mais quand on veut substituer des choses non dangereuses à des choses qui le sont, on peut mettre le plan pause qui a été fait pour le glyphosate, les néonicotinoïdes, c'est pas complètement aberrant. Pour ce qui est des mesures prises pour l'instant, prenons une au hasard, les saisonniers qui peuvent rentrer dans les secteurs qui sont considérés comme secteurs en tension pour venir aider ceux qui ont du mal à recruter. Le GNR, toutes ces choses. La jachère, non.
D'accord. Non, mais madame, allons-y. Le GNR. GNR, même chose. On a proposé au gouvernement, lors de la loi de finances, l'hiver dernier...
C'est le gasoil non routier. Le
gasoil non routier qui bénéficiait d'une exonération fiscale. Mmh. Nous avons proposé de maintenir cette exonération fiscale. Le gouvernement a dit non. Ils ont voté contre le maintien de cette exonération fiscale. Aujourd'hui, machine arrière... Le gouvernement, la majorité est d'accord. Mais écoutez, lorsqu'on
quand
propose...
Quand il faut quelque chose, vous ne pouvez pas dire que...
D'accord. Donc en fait,
qu'ils vous ont copié et que finalement...
Non mais il faut qu'il soit... Non mais moi je me réjouis pour les agriculteurs que le GNR bénéficie encore d'une exonération fiscale. Mais enfin, sincèrement, d'abord, ce n'est pas une victoire. C'est toujours ce qui sortira un peu moins de leur poche. Mais ce n'est pas quelque chose qui rentre en plus dans leur poche. Mais si vous voulez, ces gens sont des amateurs, madame. Au mieux, ce sont des amateurs. Au pire, ce sont des gens qui
n'écoutent
personne.
Vous ne vouliez pas sortir la PAC dans le temps,
monsieur Chenu? Et
non,
la PAC...
nous souhaitons qu'elle soit renationalisée, la PAC. C'est-à-dire que nous considérons que 9 milliards et demi peuvent être mieux dirigés par filière, par les gouvernements nationaux.
Mais en baissant la contribution de la France à l'Europe, vous allez aussi baisser les aides de la PAC
qui
aujourd'hui permettent aux agriculteurs de vivre.
Non, madame, parce que nous souhaitons une PAC qui soit renationalisée, parce que nous considérons que l'argent qui est utilisé pour la PAC, les mêmes sommes, peuvent être mieux utilisées par les gouvernements nationaux qui peuvent mieux les flécher vers leurs filières. Mais vous voyez, sur toutes ces solutions, ils sont... responsable depuis 7 ans, et en réalité bien avant, puisqu'on retrouvait déjà les mêmes aux commandes bien avant. Vous avez parlé du GNR, nous avons parlé des prix planchers, mais tout ça, on aurait pu éviter de faire souffrir la profession agricole.
Au fond, le monde a bougé aussi, il y a eu
la
guerre en Ukraine, il y a eu des tensions sur les cours des trucs, il y a une difficulté, donc il faut une adaptation en permanence, et ce qui est quand même très troublant, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un débat national un peu apaisé sur la question, parce que chacun y va de sa solution, et que personne n'arrive à trouver...
Non, parce qu'il y a une hypocrisie. parce que, et je vous donne deux exemples, parce que le président de la République dit qu'il s'oppose ici au Mercosur et que le Mercosur continue à être négocié au Parlement européen.
Certains négocient, mais pour l'instant, il a dit que c'était niette et que c'était bloqué.
D'accord,
mais
enfin, c'est pas lui qui décide, visiblement, puisqu'il a accepté que ce soit la Commission européenne qui négocie pour la France. Il y a même des pays, je pense à l'Allemagne, par exemple, qui poussent pour le Mercosur. Donc, à partir du moment où on accepte de laisser tous les pouvoirs
à la Commission, vous faites quoi,
Je viens sur un autre exemple. Oui. On nous dit, c'est fini sur les normes, vous allez voir, il y aura beaucoup moins de normes qui vont impacter. Mmh. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Le permis de conduire pour les tracteurs va être instauré pour les agriculteurs. Enfin, est-ce qu'on se moque pas des gens à un point qui fait que la confiance s'écroule ? Évidemment que les agriculteurs n'ont pas confiance dans ce gouvernement.
Et vous avez déposé des amendements. Vous avez déposé des amendements sur ces permis tracteurs, parce que les écologistes et les communistes ont vraiment travaillé dessus. Et
nous nous y opposerons. C'est pour ça qu'il nous faut des députés européens le 9 juin. C'est pour ça qu'il faut qu'avec Jordan Bardella, un maximum de parlementaires
à l'Assemblée nationale. Vous pouvez voter comme les communistes et les écologistes au Parlement européen sur cette histoire de permis tracteur ?
Mais madame, nous on s'opposera au fait qu'il y ait un permis tracteur pour les agriculteurs. Ça a été concocté par les écologistes. Le gouvernement, visiblement, ne s'y est pas opposé jusqu'à présent.
Sur les européennes, justement.
Sur les grands groupes, la distribution, on a parlé... on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous considérez, ou alors des entreprises comme Lactalis, dont on a vu qu'elles dominent totalement le marché, qu'elles font ce qu'elles veulent, est-ce que vous pensez qu'il faut rentrer en guerre pour le coup, c'est-à-dire être assez violent avec la grande distribution et avec toutes les intermédiaires qui font qu'au finish les agriculteurs
sortent. En tous les cas, il faut être plus exigeant sur la transparence. Nous avons demandé qu'il y ait une transparence sur les marges.
Ça, c'est prévu aussi.
Tout est prévu, formidable.
Mais je vous dis pas. Attendez.
Raison pour laquelle nous avons utilisé notre droit de tirage, d'ailleurs, pour une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire française. Savoir qui profite, qui obtient, quelles sont les modalités. Et je pense que tout ça va nous éclairer et nous permettra ensuite d'être très exigeants vis-à-vis de ceux qui, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, sont largement bénéficiaires, même en période de crise agricole.
On a bien compris que ça serait le sujet des européennes, l'agriculture.
L'un des sujets.
Le Parlement européen ou le RN siège dans le groupe Identité et Démocratie, aux côtés notamment des Allemands de l'AFD, Alternative for Deutschland, dont des membres, le conseiller notamment d'Alice Weidel, la coprésidente, ont participé à cette fameuse réunion secrète à Potsdam pour travailler un plan de remigration d'étrangers et de citoyens non assimilés. Marine Le Pen était très en colère en janvier, elle l'a dit publiquement, et pourtant mardi, elle a déjeuné avec Alice Weidel. C'est d'ailleurs Alice Weidel elle-même qui en a parlé sur Twitter au début. On a l'impression que vous ne comptiez pas les bruiter. Est-ce que vous avez un peu honte de ces alliés allemands ?
Non, mais pas du tout. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un allié ? Un allié, c'est quelqu'un qui partage avec vous des objectifs à un moment donné, dans un cadre donné. Nous partageons des objectifs avec des alliés très différents, qui sont les objectifs de voir les nations reprendre leur part de souveraineté dans ce qui concerne les échanges européens, stopper l'immigration extra-européenne. Ça, ce sont des objectifs
qui
sont partagés.
Mais il y a des lignes rouges, peut-être,
Eh bien, justement, parce qu'il y a une ligne rouge que nous ne souhaitons pas franchir, notamment sur la remigration, nous avons... Marine Le Pen a exprimé de façon très claire à Alice Weidel qu'elle était tout à fait défavorable en ce qui la concerne à cette politique de remigration. Quand on a des alliés, et je vais vous donner un exemple très parlant, on ne cherche pas des clones. On ne cherche pas des gens qui vous ressemblent et qui sont d'accord avec vous, surtout parce que dans les politiques intérieures des pays, on pourrait d'ailleurs regarder avec la Ligue italienne, on n'est pas d'accord surtout dans
c'est
les
vrai.
Politiques intérieures
et
qu'ils mènent. Et regardez Madame Metsola, la présidente du Parlement européen. Elle vient des rangs du PPE. Elle a été élue par les socialistes. Elle a été élue par les macronistes. Elle a été élue par les républicains français. Et pourtant, Madame Metsola... Non mais je termine ce propos, il est important. Elle est hostile à l'avortement. Est-ce qu'on fait porter sur les partis politiques qui ont élu une présidente du Parlement européen ? Non, on ne l'a pas élue, hein, Madame Metsola. Est-ce qu'on fait porter sur les épaules de ces partis le poids de cet engagement ?
Si on reste quand même sur cette histoire de remigration, l'AFD, dans le programme européen actuel, il y a cette phrase, la remigration doit être mise en place et développée au niveau national et européen. C'est bien que c'est
mais
déjà...
Mais nous
n'y
souscrivons pas.
Donc, vous pouvez vous priver de l'AFD
dans
votre groupe ?
Nous ne souscrivons pas à cette proposition de l'AFD qui est destinée à ses électeurs, mais à laquelle, je vous le redis, d'une
mais
façon très
eux.
Claire, très nette, nous ne souscrivons pas à cette proposition.
Est-ce que dans le cadre des élections européennes et du prochain scrutin, vous n'auriez pas intérêt à vous rapprocher davantage de Giorgia Meloni, quitter ce groupe où l'AFD est peut-être un partenaire un peu encombrant ? Est-ce que vous allez recomposer vos alliances ou pas ?
C'est les Français qui vont recomposer les alliances. Ce sont les Français qui vont envoyer des députés européens et qui vont choisir à qui ils font confiance. Donc à partir de là, nous verrons effectivement avec qui nous souhaitons travailler.
Mais est-ce que vous avez opéré un rapprochement avec Giorgia Meloni ou pas ?
Non, parce que Giorgia Meloni a souhaité prendre un chemin qui ne nous convient pas, tant sur l'immigration que sur une certaine forme de soumission à l'Union européenne.
Peut-être pour le des chemin raisons de qui... l'exercice du pouvoir par rapport à la conquête du pouvoir.
Non, parce que Giorgia Meloni attend de l'Union européenne un plan de relance de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et que l'Union européenne lui a dit qu'effectivement, elle allait le négocier.
On touche là un point très intéressant sur votre comportement. Parce que pendant très longtemps, le Rassemblement national a dit on va sortir de l'Union européenne, on va sortir de l'euro, on va faire un clash. Et là, vous êtes dans une politique bien plus compliquée où, au fond, vous ne la quittez pas, mais vous essayez de la dynamiter quand même de l'intérieur. Et Giorgia Meloni, quand elle a essayé de faire ça, elle, notamment sur l'immigration, elle s'est aperçue que c'était pas possible et qu'elle avait intérêt à se protéger derrière l'Europe. Et vous, comment est-ce que vous allez dire à vos électeurs que vous pouvez être à la fois nationaux et dans l'Europe on n'arrive pas bien à comprendre. En fait, on comprend que vous êtes beaucoup moins caricatural qu'avant, mais on comprend pas non plus la ligne suivie.
Vous avez dit tout à l'heure, les choses changent, l'histoire amène les positions à évoluer. Et celle de l'Union européenne ne manquera pas d'évoluer. Ne manquera pas d'évoluer parce que, d'ailleurs, elle évolue déjà sur un certain nombre de points, et on le voit, nous passons, nous sommes depuis 6 mois d'ailleurs, enfin depuis 2 mois et pour 6 mois, en présidence belge, avec des enjeux qui sont excessivement importants. Un enjeu budgétaire. Le coût du soutien à l'Ukraine, par exemple, est une problématique budgétaire pour l'Union européenne, qui doit voir si elle lève ou pas un impôt européen. L'enjeu migratoire, le pacte des migrations, l'enjeu environnemental. Nous avons dit, est-ce qu'on va vers une politique de décroissance ? C'est le pacte vert de Madame von der Leyen, qui coûte, je crois, à la fin 650 milliards d'euros à l'Union européenne. Donc, il y a des enjeux sur lesquels il va y avoir des réponses. Est-ce que l'Europe peut maintenir des réponses qui sont... Il faut toujours moins de souverainisme et redonnez-nous des pans entiers de votre souveraineté nationale, une défense européenne, un impôt européen, ou est-ce qu'il faut, au contraire, redonner aux nations des marges de manœuvre ? Nous pensons qu'il faut redonner aux nations des
marges
de manœuvre.
Mais voyez, par exemple,
nous sommes de plus en plus nombreux à le penser.
Pour renationaliser
bien
la
sûr.
Politique d'immigration.
Bien
c'est
sûr.
Un clash avec l'Europe, ça.
Je reviens automatiquement.
Oui, alors, et alors, bien sûr qu'il faut avoir des clashs avec l'Europe pour montrer qu'on accepte pas tout.
Mais ça veut dire
tout.
Que vous sortez
si la France...
l'Europe.
Ah non, pas du tout. Non, mais vous savez que des traités, ça se renégocie. Vous savez qu'il y a même des directives qui ne s'appliquent pas. Vous savez qu'il y a aussi des traités qu'on peut renégocier sans sortir de l'Union européenne. Je pense par exemple à Schengen. Vous savez que je vous donne une directive intéressante qui n'a pas été appliquée. C'était celle, par exemple, sur le contrôle technique des deux roues. Il y avait une directive qui devait faire en sorte qu'il y ait un contrôle technique des deux roues. La France a dit, sous la pression des deux roues, des utilisateurs des deux roues, bon, bah finalement, on ne va pas l'appliquer. Donc, on peut avoir effectivement des clashs, qui sont parfois des mini-clashs, comme celui que je viens de vous donner, ou des clashs qui sont plus importants. Mais sur le Mercosur, moi, j'aimerais que la France se fasse entendre davantage, plutôt qu'être dans une position de soumission permanente.
Monsieur Chenu, je reviens sur vos alliés. Alors, vous m'avez pas trop répondu sur le fait que vous siégerez ou pas avec l'AFD. Un autre allié, qui est vraiment un ami de Marine Le Pen, Matteo Salvini, qui est le patron de la Ligue, il a fait parler de lui aussi cette semaine, après la mort de l'opposant russe, Alexei Navalny. Voici ce qu'il dit. C'est aux médecins et aux juges russes de faire la lumière sur sa mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois que Marine Le Pen a expliqué très clairement. Elle a dit que le pouvoir russe a une responsabilité dans la mort de Navalny. Je pense que c'est très clair. Marine Le Pen l'a dit cette semaine dans les médias. Le pouvoir russe a une responsabilité. Elle a même ajouté c'est une faiblesse incroyable pour un pouvoir en place que d'enfermer ses opposants politiques.
Et pourquoi, pourquoi Parlement européen ?
C'est léger comme condamnation, ça.
Ouais. Ça, c'est léger comme condamnation de dire que le pouvoir politique...
Parce qu'il ne pense pas comme vous qu'on l'envoie au diable dans l'Antarctique et qu'on voit qu'il est torturé, qu'on voit qu'il... Simplement parce qu'il pense autre chose.
C'est exactement ce que nous disons. C'est tout à fait scandaleux. Quand Marine Le Pen dit que le pouvoir russe a une responsabilité dans la mort de Navalny...
C'est pas qu'il
je
a
ne sais...
une responsabilité.
Il a une responsabilité. Il a une responsabilité dans la mort de Navalny. Je ne sais pas si on peut être plus clair.
Et pourquoi au Parlement européen, vous n'avez pas voté les résolutions qui condamnaient la répression, les conditions de détention d'Alexei
mais
Navalny ?
Vous savez
à
comment fonctionne,
reprises.
Mais on est, j'allais dire, on va le répéter très longtemps parce parce que ce sont des axes qui sont utilisés contre nous, que les résolutions du Parlement européen, en général, ou sont des prétextes pour faire de la politique politicienne, ou en général dépassent largement le cadre du titre qui est proposé. Donc sur Navalny, c'était le cas.
Là, ça dépassait pas vraiment.
Si, largement, et c'était probablement un prétexte, et c'était davantage un prétexte d'utilisation de Navalny pour pouvoir tenir un autre discours. Mais il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de ce pouvoir russe, dont on voit chaque jour qu'il s'éloigne. Emmanuel Todd, je crois, disait que c'est une démocratie autoritaire. Eh bien, de moins en moins une démocratie, de plus en plus autoritaire. Donc, effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté
alors,
là-dessus.
Dans ce contexte-là, soutenir l'Ukraine, est-ce que c'est un combat existentiel, au-delà du soutien à l'Ukraine, un combat existentiel pour les démocraties, pour la France et pour l'Union européenne?
Nous, on a toujours soutenu les résolutions pour l'Ukraine. Je les ai reprises parce que je pense qu'il faut être très clair. On a voté la résolution condamnant l'invasion. On a voté les résolutions sur l'accueil des réfugiés. On a voté les résolutions sur les fonds financiers. On n'a pas voté celle sur les fonds financiers sans garantie parce que la Cour des comptes européenne nous disait qu'il y avait un problème probablement de corruption. Mais on a toujours été au rendez-vous lorsqu'il a fallu soutenir l'Ukraine. La seule ligne rouge que nous mettons et que nous assumons, et on peut avoir un désaccord, c'est qu'elle ne vienne pas impacter l'économie française ou la sécurité des Français.
Ça veut dire que vous êtes prêt à soutenir dans le futur, à condition, par exemple, qu'il n'y ait pas l'épisode des poulets ukrainiens ou que...
C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je me souviens de ce que disait Bruno Le Maire. Bruno Le Maire disait « Nous allons faire effondrer l'économie russe ». J'ai regardé les chiffres dernièrement. Non seulement l'économie russe n'est pas effondrée, mais il semblerait qu'elle ne se porte pas si mal que cela. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de sanctions qui ne touchent pas leur objectif. Si l'objectif n'est pas touché et que, en conséquence ou en parallèle, ce sont les Français qui, eux, voient leur électricité, leur agriculture fortement impactée, oui, on ne va pas accompagner. C'est-à-dire
alors,
qu'il
faut arrêter les frais ?
Il faut continuer. Alors nous avons voté, d'ailleurs, sur la fabrication des obus, nous avons voté la résolution, des armes qui soient évidemment défensives.
Maintenant que ça ne veut pas dire grand-chose défensive.
Si, c'est se protéger. Et nous les avons en tous les cas votées. Donc nous, on est dans un mécanisme qui est celui du soutien à l'Ukraine, mais pas contre l'intérêt des Français. Mais projetons-nous au-delà. Est-ce que l'Ukraine peut gagner une guerre, si on reste dans l'état d'esprit d'une guerre, sans l'OTAN ? Non. Est-ce qu'il faut donc que l'OTAN s'engage dans une guerre ? Non, mais est-ce qu'il faut donc que l'OTAN s'engage ? Ça veut dire est-ce que la France, en réalité, doit envoyer des militaires ? Parce qu'à la fin, c'est ça. Il faut dire les choses. Est-ce qu'à la fin, on doit envoyer des militaires français là-bas ? C'est-à-dire, est-ce que des jeunes gens iront tomber sous les balles des Russes pour sauver l'Ukraine ? Ou est-ce qu'il y a effectivement la nécessité d'une négociation diplomatique ? Eh bien, moi, je crois plutôt en cela. Je crois en cela,
en fait,
mais je
vous
pense...
Vous dites on n'a pas les conditions de faire une guerre à la Russie et qu'il vaut mieux lâcher l'affaire.
Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Je pense qu'à un moment, de toute façon, tout se termine toujours par une négociation.
Avec la Russie.
Moi, je préférerais que ce ne soit pas avec le régime de Vladimir Poutine. On verra bien. Mais j'aimerais aussi que l'Union européenne, au lieu de se donner des accents de grands diplomates, laisse les nations gérer aussi leur diplomatie plutôt que de les empêcher ou de les encombrer.
Ça n'empêche pas, regardez, il y a eu un traité bilatéral entre l'Allemagne et l'Ukraine, entre la France et l'Ukraine.
Parce que
et
la
ça
France pourrait
pas
prendre
les...
davantage d'initiatives pour amener les gens autour de la table. Il y a des tas de pays, moi j'ai visité, j'ai rencontré des diplomates de pays, je pense à l'Inde, je pense aux Émirats qui peuvent être des partenaires très intéressants dans le cadre de ce règlement, si tant est qu'ils le veuillent eux-mêmes, si tant est qu'on leur demande, puisqu'ils sont des pays qui dialoguent avec tout le monde. L'Inde dialogue et avec la Russie et avec la France et avec l'Europe sans aucune difficulté. Donc je pense qu'effectivement on pourrait être à l'initiative de ces opérations diplomatiques, parce que si c'est pour une guerre de 100 ans qu'on signe,
Vladimir Poutine, c'est quand même d'affaiblir l'Union européenne dans sa substance.
Mais on le sait, bien sûr.
Mais est-ce que vous ne participez pas à cet affaiblissement en contestant l'Union européenne de l'intérieur ?
La défense européenne ?
En contestant l'idée qu'il faille une défense européenne, en contestant au fond l'idée qu'on pourra soutenir l'Ukraine ad vitam aeternam parce qu'on n'en a pas les moyens et ni peut-être la volonté. Est-ce que c'est pas ça quand même la plus grande difficulté
pour vous ? Une Union européenne ne peut être forte que si ses nations sont fortes. Une Union européenne faite de nations affaiblie dans leur agriculture, dans leur industrie, dans leurs économies, ne donnera jamais une Union européenne ni combative, ni forte, et d'autres le savent bien, en particulier les États-Unis. Donc, tant que les nations ne savent pas se redresser, tant qu'on ne les protège pas, tant qu'on ne protège pas leur industrie, leur agriculture, vous n'aurez jamais une Union européenne qui pourra être combative. Moi, je suis pour des nations fortes au sein de l'Union européenne, dans lesquelles ces nations travaillent sur des objectifs communs.
Allez, on va passer à un autre thème phare de cette campagne, c'est l'immigration. Et on va écouter Manuel Valls, il était sur France Inter cette semaine.
La réforme du droit du sol, qui a d'ailleurs été déjà modifiée, restreinte par la loi en 2019, ne réglera pas ces problèmes lourds d'immigration. Et à travers, au fond, une communication autour de cette idée de la réforme du droit du sol, faisant croire que l'on réglera ces problèmes à travers cette réforme, on ouvre une boîte de Pandore qui me paraît extrêmement dangereuse. On peut avoir des politiques concernant les migrations extrêmement sévères, nécessaires en plus aujourd'hui, face à l'afflux de migrations clandestines. On peut s'interroger sur le fait, est-ce qu'on a besoin ou non d'une migration économique, et défendre la conception républicaine du droit du sol.
Gérald Darmanin donc a promis hein, cette mesure hein, de suppression du droit du sol à Mayotte ferait partie d'un projet de révision constitutionnelle déposé avant l'été. Peut-être une première question, est-ce que on entend ce que dit Manuel Valls, est-ce que c'est suffisant de supprimer le droit du sol pour arrêter cette immigration massive des Comores à Mayotte?
Non, bien sûr que non. La fin du droit du sol que nous réclamons portée d'ailleurs par Marine Le Pen en 2018 à travers une proposition de loi, immédiatement insultée encore une fois par la majorité. Je vous rappelle que comme d'habitude, ce qui apparaît être une évidence aujourd'hui pour ce gouvernement a été combattu hier lorsque nous l'avons proposé. Mais la fin du droit du sol n'est qu'un élément. Je reprends les propos de Gérald Darmanin. Le droit du sol est un élément d'attractivité de l'immigration. Ici, à Mayotte, comme partout sur le territoire national. Mais évidemment, à Mayotte, on devrait déclarer l'état d'urgence, c'est ce qu'a demandé d'ailleurs Jordan Bardella. On devrait arrêter de financer les Comores, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. C'est le minimum si on veut pouvoir reprendre le contrôle à Mayotte, que nous demandent d'ailleurs les Mahorais. Maintenant, sur la fin du droit du sol à Mayotte. Je crois que c'est plutôt une victoire idéologique pour nous, puisque donc, nous le demandons depuis longtemps.
En un mot, vous voterez cette révision constitutionnelle.
Oui, puisqu'on l'a demandé. Non, mais on a demandé. Maintenant, je pense que le droit du sol devrait être aboli partout. Ce qui est valable pour les Mahorais doit être valable pour les continentaux. Et puis, il y a quand même une menace au-dessus de la tête qui fait qu'il faut aller plus loin à travers la réforme de la Constitution, le référendum que nous proposons. C'est qu'à un moment, le Conseil constitutionnel invalide cette réforme du droit du sol à Mayotte parce que cela rompt avec un principe d'égalité des territoires et des départements dans notre pays.
Alors à propos, l'imam Majoubi a été expulsé grâce notamment à la loi qui a été votée il y a quelque temps. Ah, vous grimacez. Est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est quelque chose de bien ou vous considérez que c'est un gadget?
Madame, vous attribuez des Césars, c'est un peu la période, à des gens qui ont fort peu de mérite. Alors, moi je me réjouis que M. Majoubi ait été expulsé. Il a été expulsé parce que on a retrouvé son passeport. Donc il n'y a pas eu besoin, effectivement, de négocier,
de laisser passer consulaire.
Si on ne l'avait pas retrouvé, la loi nous aurait montré ses limites. Avec Schengen, M. Majoubi, oui. Et d'ailleurs il le dit lui-même, peut revenir dans n'importe quel pays et revenir ensuite en France. Donc vous voyez que on n'est pas à la fin de l'histoire. Ce que je crois, c'est que pas de triomphalisme sur un cas. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de lieux de culte qui sont salafisés, je reprends l'excellent travail de l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. Quand on voit le nombre d'étrangers radicalisés en situation d'être expulsés, qu'ils ne le sont pas. Gérald Darmanin nous dit « j'ai augmenté de 26% les expulsions ». Ça veut dire 9 personnes. On se dit qu'on est en train de vider l'océan avec un dé à coudre. Donc, pas de triomphalisme sur ça. C'est bien ce que devrait faire Gérald Darmanin, parce que s'il se met à faire des tweets, il va finir par avoir mal au doigt, vu le nombre de gens qu'il y a à expulser de notre territoire et pour lesquels, aujourd'hui, rien n'est fait.
En un mot, un autre projet de révision constitutionnelle sur la Corse. Est-ce que vous êtes toujours contre, opposé à l'autonomie en Corse ?
Nous, on est pour que la Corse ait un statut qui prenne en compte ses spécificités. C'est une île, il y a des spécificités, elles sont d'ailleurs aussi économiques. On est favorable à ce qu'on puisse développer l'étude de la langue corse sans qu'elle soit juxtaposée à la langue française, sans le bilinguisme. Mais quand je vois que dans ce texte, il y a une reconnaissance de la communauté historique, culturelle, linguistique, je me dis qu'on va vers une reconnaissance du peuple corse, ce qui évidemment n'est pas possible par rapport à l'unité nationale. Et quand je vois qu'il y a des perspectives de pouvoir normatif, on n'est plus très loin de perspectives de pouvoir législatif, ce qui effectivement me heurte beaucoup. La Corse doit rester dans la République, on doit développer un système qui permette de traiter les difficultés auxquelles elle est confrontée, mais la Corse doit évidemment rester dans la République. Les Corses l'ont souvent répété d'ailleurs.
Une dernière question,
vous avez fait référence au César et à l'intervention de Raphaël Quenard, parlant de son grand-père agriculteur. Est-ce que vous trouvez que la déferlante, si j'ose dire, MeToo, et de dénonciation d'un certain nombre de faits qui finalement n'ont voulu être vus par personne, donc c'est une bonne chose, ou vous dites, oh là là, attention, la justice, c'est la justice, ça se fait pas ailleurs?
Non, moi je crois que c'est bien que les victimes parlent, garçons ou filles d'ailleurs, s'expriment. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des tragédies intimes qu'il faut mettre dans la lumière, en respectant la présomption d'innocence. On sait que ces affaires très sensibles, qu'elles soient dans le temps ou qu'elles soient dans les situations, peuvent aussi impacter des auteurs présumés. Et donc, il faut respecter la présomption d'innocence, mais délivrer la parole des hommes et des femmes qui ont subi ça, je pense que c'est important.
Merci Sébastien Chenu. On accueille maintenant notre deuxième invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Élodie Forêt.
Et nous accueillons Rémi Branco, vice-président socialiste du Conseil départemental du Lot, ancien chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, c'était sous François Hollande. Vous publiez ce livre, Loin des villes, loin du cœur, la gauche veut-elle regagner les campagnes, aux éditions de l'Aube et avec la fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, qu'a commencé le salon de l'agriculture hier dans un contexte de colère agricole, que Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste, sera cet après-midi au salon. Vous décrivez, vous, dans ce livre, une fracture vraiment profonde entre la campagne et la gauche. Alors dites-nous, est-ce qu'au-delà même des agriculteurs, est-ce que la gauche a-t-elle encore quelque chose à dire au monde rural ?
Oui, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que ça fait 3 ans que je suis désormais un élu local, rural, dans le Lot, et 3 ans que je vois progressivement la gauche disparaître de ces territoires ruraux, à mesure en fait que cette ruralité disparaît des programmes de la gauche. Et j'ai voulu adresser à travers ce livre une espèce d'appel au réveil, au sursaut, pour que la gauche s'intéresse à nouveau à ces territoires, à l'agriculture. Moi, je suis content de voir que la gauche sera présente au sein de l'agriculture, mais il faut qu'elle y soit massivement et avec des solutions quand même crédibles, et qu'elle s'intéresse à nouveau à la ruralité. Ce fossé, il est gigantesque entre, pas simplement la gauche, les élites politiques aujourd'hui de ce pays. Si on a ce salon de l'agriculture à feu et à sang hier, c'est aussi parce qu'on en arrive à un point de déconnexion très fort entre un pouvoir national et des agriculteurs et le monde rural en général.
Alors ce qui est marrant dans ce livre, c'est que vous datez un petit peu les origines de cette fracture. Il y a notamment un épisode que vous narrez, c'est cette proposition sur le revenu universel qu'avait fait Benoît Hamon en 2017. Expliquez-nous pourquoi ça, c'est une origine pour vous de cette fracture.
C'est vrai que c'est une proposition qui a beaucoup intéressé dans les milieux urbains, qui a créé de la curiosité un peu en milieu rural, mais dans la ruralité, quand on est petit artisan, agriculteur, petit commerçant, et que on vit de son travail et que c'est compliqué, que c'est pas simple, on attend de la gauche qu'elle soit en appui, en soutien des gens qui travaillent. Et là, cette proposition, elle donnait l'impression, si vous voulez, que vous soyez agriculteur, que vous fassiez rien de vos journées, ou que vous soyez juste en pause professionnelle, vous allez toucher la même chose. Et que quelque part, à quoi bon être agriculteur, à quoi bon être commerçant, si c'est pour toucher finalement un revenu que j'aurai quoi qu'il arrive. Et quand on est dans des territoires comme le mien, qui vieillissent, où on manque de main-d'œuvre pour travailler, pas simplement en agriculture, mais demain pour être médecin, pour être commerçant, quand on a une forme de désertification, on est inquiet de voir que la gauche, quelque part, elle pousse à la paresse, quoi. Et derrière, Sandrine Rousseau, ça a été quelque part, avec son droit à la paresse, le prolongement un peu de cette vision de la gauche un peu en décalage avec la réalité de nos territoires.
Est-ce que c'est pas dans toute la gauche, une espèce d'esprit de gauche général qui est quand il y a le débat entre assurance, assistance, avec un certain nombre de lignes qui doivent bouger, c'est-à-dire on vous aidera si vous en avez vraiment besoin, mais il faut travailler. Est-ce que finalement ça touche les agriculteurs, la ruralité, mais ça touche tout le monde?
Bien sûr. C'est
un courant qui a complètement submergé la gauche, ça.
Et posez-vous la question, pourquoi les Gilets jaunes en 2018, ils n'ont pas été heureux de retrouver la gauche sur les ronds-points? C'est parce que pour eux, la gauche n'était pas la réponse à leurs questions. Alors que, au final, Ils veulent quoi, les habitants des territoires ruraux? Ils veulent un hôpital qui s'écroule pas. Ils veulent des transports fiables. Ils veulent des médecins qui soient présents. Ils veulent des écoles qui restent ouvertes. Et ça, c'est ce que Puy-l'Évêque, dans mon village, exige. Mais c'est ce que Verdun exige. C'est ce que Chalonne-sur-Loire exige. Tous les territoires ruraux, aujourd'hui, sont en attente d'égalité des territoires. Ça avait été une des propositions de François Hollande. Ça a même été le nom d'un ministère en 2012, l'égalité des territoires. Outre que ça a finalement déçu, parce qu'on a loupé quelques virages, hein, je pense à la désertification médicale, ça prouve qu'il y avait vraiment une attente très forte. Et elle existe encore aujourd'hui.
Alors, la difficulté, c'est que le Rassemblement national a très bien compris tout ce que vous dites et ils sont à l'offensive sur tous ces terrains-là.
C'est d'ailleurs l'objet de votre livre.
Comment,
c'est que le
quand
RN...
on est un homme de gauche, on essaye de récupérer et est-ce que la bataille est encore jouable?
Pour moi, elle est plus que jamais jouable pour deux raisons. La première, c'est que, sans faire offense aux dirigeants du Rassemblement national, moi, je croise peu de gens dans mon territoire qui me disent « Ah, sur les déserts médicaux, Marine Le Pen, elle a complètement raison. Bardella, il a tout compris au vieillissement de la population. Sur l'agriculture, on est fan de leurs propositions. » Je dis pas que personne n'est d'accord. Mais moi, j'ai personne qui me dise « Ils ont les solutions, il faut absolument qu'ils arrivent au pouvoir. » Par contre, ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, la gauche leur donne pas de solution. Et le macronisme, j'en parle même pas. Et en fait... plus la gauche s'emparera de ces sujets, plus elle fera des propositions, plus ce sera crédible, plus elle aura des chances demain d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Tant qu'elle dit rien, tant qu'elle est absente de ces débats, oui, effectivement, on votera, il y aura déjà beaucoup d'abstention et il y aura du vote RN pour dire mais secouez-vous, bougez-vous, vous vous intéressez
c'est
pas à nous.
C'est qui la gauche, votre gauche ?
Moi, je suis une gauche qu'on a connue pendant longtemps, qui était à la fois implantée dans les territoires et qui portait un discours national. Aujourd'hui, vous avez deux gauches. Vous avez la gauche NUPES nationale qui a des débats très urbains. Et moi, je ne suis pas dans un débat pro-anti-NUPES, là, hein, mais qui a des débats qui intéressent. Enfin, franchement, la question des SUV à Paris, la question de savoir s'il faut être woke ou anti-woke, moi, personne ne me la pose chez moi. Hein. Moi, c'est quand est-ce que le prix du carburant y baisse, quand est-ce que je peux payer les pads à mes parents parce que ça coûte un bras maintenant. Et donc, il y a la gauche après locale dont je fais partie. Et moi, je me retrouve avec des gens qui me disent « Mais toi, on vote pour toi. Toi, ça va. Toi, avec ton président, Serge Rigal, Delga à la région, vous vous battez. Mais par contre, au national, désolé, mais on ne suit pas parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on entend, dans ce que donne à voir la gauche au niveau national. »
Et votre thèse, en fait, dans ce livre, c'est de dire que si la gauche délaisse complètement le monde rural, c'est la porte ouverte à une victoire, en fait, du RN au second tour qui va capter ses voix. Vous en pensez quoi, vous, Sébastien Chenu ?
D'abord, je pense que... Et moi, je suis élu dans un territoire dont je suis le premier député qui ne soit pas de gauche depuis 1958. Donc, je crois que lorsque la gauche est au pouvoir, elle a beaucoup déçu. C'est ce que me disent mes électeurs qui, toute leur vie, probablement, ont voté à gauche et qui, aujourd'hui, n'incarnent pas un espoir parce qu'en fait, elle n'est pas en rapport avec les valeurs que défendent les habitants. Elle n'est pas au rendez-vous du mérite, elle n'est pas au rendez-vous du travail, elle n'est pas au rendez-vous d'une certaine forme d'autorité, elle n'est pas au rendez-vous de la défense du drapeau. Et on est dans des délires, les ZFU, on est dans le wokisme, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, ce ne sont pas nos préoccupations. Moi, je suis en désaccord avec vous quand vous dites, les gens ne sont pas d'accord avec le Rassemblement national, et en tout cas, ne l'expriment pas. Ils l'expriment dans les bulletins de vote. Vous allez dans votre secteur à Sainte-Gabelle, fief historique de Lionel Jospin, Marine Le Pen est aujourd'hui majoritaire. Donc, vous êtes bien obligé de comprendre qu'il y a une adhésion à ce que nous défendons. Et quand je vous entends d'ailleurs dire, il faut des services publics, il faut des transports dans nos campagnes, dans la ruralité, c'est ce que nous défendons, c'est ce que nous portons, et on le fait avec des propositions qui sont en général extrêmement concrètes, extrêmement chiffrées. On peut avoir des désaccords, et c'est bien normal, et on en aura probablement. Mais les électeurs ont raison dans leur façon de s'exprimer à travers leur bulletin de vote. Ils ne peuvent plus faire confiance en une gauche qui n'existe plus. Pardonnez-moi, vous avez perdu la partie dans votre famille politique. Vous avez perdu la partie. Peut-être qu'un jour, les cartes seront redistribuées. Ils ont gagné. Ils vous ont tué, Monsieur Branco.
Votre réponse, Rémi Branco. Est-ce que déjà, on peut avoir un point de bascule? Est-ce qu'on peut repartir en arrière?
Je pense qu'aujourd'hui, ils nous ont tués dans l'image que donne la gauche au niveau national. C'est vrai que, moi, mes voisins, ils n'ont pas l'impression que c'est ma gauche qui dirige le niveau national. Simplement, on est quand même dans les territoires. Pardon de le dire, vous citez Sainte-Gabelle. Mais moi, chez moi, à Puy-l'Évêque, dans mon canton et dans le Lot, il n'y a pas un élu RN. Hein. Donc, on n'a pas perdu la bataille avec le reste de la gauche ou avec y compris le Rassemblement national. Par contre, on a perdu aujourd'hui la bataille des idées et de l'incarnation. On n'incarne plus aujourd'hui pour ces territoires
une
solution.
Figure, c'est un José Bové, il manque vraiment une figure qui représente la ruralité à gauche aujourd'hui.
Mais sans même aller jusqu'à des caricatures, parce que là on parle d'un agriculteur, mais François Mitterrand, il était élu de la Nièvre. Les habitants de la Nièvre, ils se sentaient représentés par François Mitterrand. Prenez Lionel Jospin, puisque vous parlez de Sainte-Gabelle. Lionel Jospin, quand il était le mercredi après-midi à l'Assemblée, il avait dans son oreille, il savait que les habitants de Sainte-Gabelle l'écoutaient. Donc il parlait différemment d'un élu qui est, pardon, mais un peu hors sol ou un peu urbain. François Hollande, il a été élu en 2012 par beaucoup d'habitants des territoires ruraux qui se disaient, après Sarkozy, qui avait démoli beaucoup de services publics...
Vous voulez dire qu'Anne Hidalgo ne faisait pas l'affaire, par exemple?
Ben malheureusement pour elle.
Raphaël Glucksmann, est-ce qu'il va faire l'affaire?
Malheureusement pour elle, à Hidalgo, elle incarnait l'urbanité, tournée à son maximum. Et Raphaël Glucksmann, vous verrez ce qu'il dira cet après-midi au salon de l'agriculture. Vous serez étonné parce qu'il travaille beaucoup sur les sujets.
On l'écoutera avec attention. Merci beaucoup à nos invités Sébastien Chenu, Rémi Branco. Je répète, votre livre, c'est Loin des villes, loin du cœur. La gauche veut-elle regagner les campagnes? Merci à toute l'équipe de Questions Politiques, Corentin Bémol, Fabienne Lemoyle. La semaine prochaine, Karine Bécart sera de retour aux manettes. D'ici là, très bon dimanche et très bonne semaine.